les ondes de Schiste 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les architectes du son.
Après 5 longues semaines de campagne électorale, la fin approche. Le 3 octobre prochain, le 43e gouvernement du Québec sera élu et Chiz est là pour vivre cette soirée électorale avec vous. Félix-Antoine Audet, Roxane Bédard et Antoine Pellard-Raté décortiqueront pour vous les moments marquants de la campagne, les enjeux importants et les résultats en temps réel. Ils seront accompagnés de l'équipe de journalistes de Chiz en direct sur le terrain. Rejoignez-nous dès 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Votre animateur, Patrick Couture.
Dans son roman Le Dieu des petits riens, Arruda Tiroi dépeint des réalités dures, comme l'inégalité du système des castes en Inde et la mort infantile. On s'en doute, le récit se termine très mal. Mais le dernier chapitre présente un événement du passé qui était resté invisible aux yeux de tous. Une liaison amoureuse d'une douceur et d'une beauté remarquables. Cette manière d'achever une œuvre sombre sur un flashback lumineux nous montre qu'il faut manipuler nos histoires si l'on veut révéler l'idéal fertile qui se cache derrière l'apparence première d'un monde désolant. Écrire apparaît alors comme un geste de révolte face à l'insatisfaction du réel. Si celui-ci devient dénudé de poésie, on doit se soulever. C'est pourquoi, aujourd'hui, au cabaret du crachoir, on reçoit des personnes qui écrivent pour critiquer le réel.
Poésie, ces conducteurs qui s'amusaient à faire peur aux cyclistes sur la route. Ils ne devaient pas avoir besoin des mêmes lumières que moi, ces dirigeantes pétrolières s'apprêtant à saccager la plus belle île du Québec et s'en félicitant à belles dents dans ma télévision. Ils devaient avoir oublié le désir et la foi de leur début dans le service public, ces politiciens qui avaient ouvert toutes grandes les portes de cette scandaleuse dépossession collective. C'est là que se loge l'erreur, la mienne et celle de plein de monde, celle de se croire tout seul de sa gang, celle de perdre confiance, celle de renoncer à voir ce qui brille au fond des gens, même ceux avec qui on ne partage apparemment aucune valeur, celle de cesser de s'adresser à cette part-là de nos contemporains qui tremble, qui cherche la beauté, qui aime, celle de nier que le besoin de poésie existe au cœur de tous.
Véronique Côté qui nous parle de besoin de poésie dans son ouvrage La vie habitable en 2000, ça a été publié en 2014. C'était lu par elle-même à Nouveau Projet Audio, un projet en association avec la maison d'édition de La vie habitable. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de poésie, de littérature. On parle bien sûr de écrire pour critiquer le réel dans le sens d'y ajouter un peu de beauté. Dans plusieurs sens, on va voir ça avec nos invités. Et je crois d'ailleurs qu'offrir un espace de parole à des romanciers, à des poètes, comme ici au cabaret, ben, c'est déjà un peu critiquer le réel. Donc, on va faire ça avec Sarah Lazzaroni, qui est une auteure prolifique. Elle a publié Patchouli en 2014, Veiller la braise en 2015, Okanagan en 2016 et Plus grande que les maisons en 2020. On va d'ailleurs pouvoir entendre un extrait de ce dernier roman aujourd'hui. Bonjour, Sarah.
Bonjour, Patrick. Bonjour, Jeanne.
Ben oui, parce que tu le dis, on accueille également Jeanne Mathieu Lessard, qui est chargée de cours à l'Université de Montréal, et elle a publié des recherches touchant notamment à l'humour des femmes. Elle travaille actuellement sur une anthologie à ce sujet, un ouvrage collectif qui paraîtra en 2023 chez Somme Toute. En création littéraire, elle s'intéresse à la poésie gestuelle. Le texte qu'elle nous interprétera tout à l'heure est paru au crachoir de Flaubert sous forme illustrée. C'est le poème « Mettre les voiles ». Bonjour, Jeanne.
Bonjour, Patrick. Bonjour, Sarah.
On est bien content de... Ben, je suis bien content de vous recevoir. Je fais comme si on était une grosse équipe. Ben non, c'est moi, le cabaret qui vous accueille. Ben, c'est moi avec vous, bien sûr. C'est ça, écrire pour critiquer le réel, c'est un thème que vous m'aviez proposé. Ben, qu'est-ce que ça vous évoque? Pourquoi écrire pour critiquer le réel? C'est quoi pour vous?
Ben, moi, je dirais que c'est ce qui m'a motivée à écrire à la base. J'ai commencé à écrire, c'était comme un trop-plein d'insatisfaction par rapport au réel, à ce qui m'entourait. Puis j'ai écrit pour me défouler, me libérer de ça, puis ça a donné finalement un livre. Mais à la base, c'était vraiment comme une espèce de geste de révolte contre ce qui m'entourait. L'écriture est née de ça. Je suis bien consciente que c'est pas tous les écrivains puis écrivaines qui écrivent motivés par une colère contre le réel, mais moi, c'est ça qui a été mon moteur premier.
Mais d'ailleurs, tu as commencé à écrire quand même très jeune, je crois, Sarah. C'est ton premier roman, c'est paru en 2000, c'est, je viens de le dire.
En 2014, oui. J'avais 19, 18 ans. Là, c'était autour de ça, mais j'écrivais déjà avant. C'est juste que c'était pas des romans publiables. Oui, c'était juste pour le fun.
Non, mais ça me fait penser que j'ai l'impression que souvent, quand on commence à écrire jeune, dans l'adolescence, on a cette dégaine-là qui nous fait vouloir critiquer le réel beaucoup, je crois. Ben, en tout cas, je vais parler en mon nom personnel, mais la première fois que j'ai dit je vais écrire un poème, c'était pourri, mais c'était face à l'insatisfaction que j'avais devant certaines réalités. Et puis Jeanne, pour toi, c'est quoi ça veut dire écrire pour critiquer le réel?
Oui, ben Sarah, ce que tu dis, ça me rejoint beaucoup. Moi aussi, puis j'en parlerai tantôt dans un de mes textes. J'ai d'abord écrit par colère, puis c'est certainement un moteur. Puis je pense qu'il y a aussi quelque chose d'extrêmement positif à la notion de critique, puis qu'on perd souvent de vue. Critiquer, pour moi, c'est pas juste pointer le bobo, c'est aussi apporter une autre vision du monde créatrice. En fait, la critique, c'est créateur pour moi. Puis pour moi, le littéraire et la critique, c'est une façon de créer des espaces puis du temps, comme ici, notre discussion aujourd'hui. Mais écrire un nouveau poème, c'est créer un espace, le temps de certains gestes, de certains mots pour proposer autre chose. Donc, il y a un aspect à la fois négatif qui cohabite tout le temps avec le positif pour moi dans cette critique-là du réel.
Mais je suis tellement d'accord. Moi non plus, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est comme le premier pas dans un processus qui va finir avec une action. Mais
exactement.
Tu peux pas agir s'il y a pas eu au préalable une certaine critique, une observation de ce qui nous entoure. Ensuite, tu peux agir.
Oui, puis on va le voir, ça se décline de différentes façons. Vous allez d'ailleurs nous faire deux propositions bien différentes. Et j'ai le goût qu'on commence avec toi, Sarah, que tu nous lises un extrait de ton roman. Donc, entrer dans la prose d'abord. Donc, comme je disais, c'est le roman « Plus grande que les maisons ». C'est un court extrait qu'on s'apprête à entendre. Donc, comme dans un cabaret, accueillir Sarah Lazzaroni.
Cet endroit lui plaît de plus en plus, lui ressemble de plus en plus. Elle a laissé des miettes de pain sur la table, des vêtements sales dans l'évier, de la cire de bougie à couler sur le plancher, de longues veines rouges qu'elle devra gratter plus tard. Elle ne veut pas téléphoner à Xavier. Elle ne veut pas savoir si sa grand-mère est morte. Elle ne veut surtout pas savoir quelle est la part du lot qu'ils auront gagnée. Chloé apprécie le calme et la solitude de ses jours sans lui. Elle se sent libre, mais débalancée. Elle s'éveille à des heures incongrues, ne voit plus l'intérêt de rester allongée dans son lit. Alors s'assoit sur le rebord de la fenêtre, déjeune au milieu de la nuit, une omelette avec du tabasco. Elle fume trop, mais au moins sa résolution de lire une heure par jour, rien que par plaisir, est maintenue. Ses auteurs préférés du moment ont érigé un temple au pied du divan, trois petits piliers en forme de tabernacle. Heureusement, il y a le fleuve. C'est vers lui qu'on doit se tourner, quand rien ne va plus, quand on se sent triste. Longtemps, Chloé a voulu croire que la tristesse était un noble sentiment. Oui, un excès de compassion, ou quelque chose comme ça. Déblatérant avec des sophismes dont l'inconsistance accentuait de plus en plus son impression de vertige. Crachant du sel sur son ulcère. Longtemps, elle a aimé pleurer, puisant dans chacune de ses larmes la conviction d'être un peu plus humaine, un peu plus solidaire. Trop seule, trop souvent, elle est restée debout, dehors le soir, à s'apitoyer patriotiquement sur le sort de sa nation, à boire pour oublier qui elle était, À boire parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait quand tous les autres sont partis se coucher? L'alcool et le cul pour repousser la nuit, l'existentialisme. Et le rire des filles comme un amortisseur de choc, comme des ondes de bonheur partagées avec tout l'univers, pour refouler l'angoisse, pour endiguer le tsunami. Les filles sont si belles lorsqu'elles rient. On dirait des fleurs qui s'ouvrent, on dirait Dieu qui se défoule. Dans leur dos apparaissent des chaînes de montagnes à vol d'oiseaux, et dans leurs yeux éperdus, la fragilité des ailes d'un monarque. Longtemps, Chloé a rêvé d'être l'une de ces créatures mystérieuses et tristes. Aujourd'hui, elle a d'autres chats à fouetter. Après tout, qu'on le veuille ou non, la couche d'ozone s'amincit, les icebergs fondent et le Sahara prend de l'expansion. Il y a d'autres priorités dans le monde que sa mélancolie. L'humanité continue de faire des mauvais choix. Tous les jours, consciemment, c'est inéluctable, une tragédie grandiose qu'on contemple sans bouger, comme au cinéma. Depuis Gandhi, personne ne fait vraiment ce qu'il faut. Personne ne cesse d'agir. Les amoureux, ce sont les pires. Ils se foutent tellement éperdument de tout qu'ils seraient prêts à vendre leur âme pour un peu de chair aimée.
C'était donc un extrait de Plus grande que les maisons sur du jazz, parce qu'il faut toujours un petit peu de jazz dans la vie. J'ai le goût d'entendre les commentaires de Jeanne d'abord sur la lecture que nous a fait Sarah.
J'ai beaucoup aimé ton texte, Sarah. Puis, ce que j'ai le plus senti, je pense, c'est une espèce de cohabitation des voix. Même s'il y a un seul personnage dans cet extrait-là, je sens vraiment à la fois toute la perspective de Chloé, puis aussi le jugement peut-être de ta narratrice sur Chloé ou de Chloé sur elle-même après un certain temps qui s'est écoulé. J'ai particulièrement aimé ces moments-là de réflexion de Chloé sur ce qu'elle était avant. Et puis, j'entends d'autres voix aussi avec ce magnifique passage sur le rire des filles, l'importance du rire des filles, une espèce de collectivité qu'il y a derrière Chloé qui peut l'éclairer peut-être. Puis justement, lui faire revoir sa perception du réel pour revenir à notre thème, là. Donc, je sentais cette critique-là un peu tout le temps filigrane, des fois juste par des petits mots que t'insères, admettons, qu'elle s'apitoie patriotiquement sur le sort de sa nation. Je sentais une petite ironie de la narratrice, là. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Bref, j'ai trouvé ça très riche.
Mais je suis contente que tu emploies le terme ironie, là, parce que c'est important pour moi d'en insérer un peu partout dans l'art, là, parce que c'est, y a rien de tranché, là, de blanc ou noir. Puis je trouve que la meilleure façon d'explorer la zone grise, c'est beaucoup par l'ironie, parce que malgré soi, ben, on est porteur de comme plein de paradoxes. Puis pas d'en rire nécessairement, mais de les regarder avec ironie, ben ça permet de les accepter davantage. Puis il y a effectivement de ça dans l'extrait là, que j'ai lu. Le personnage, d'abord, il y a un portrait, puis ensuite un regard plus critique, plus ironique porté sur cette réalité-là dans laquelle elle est prise.
Ouais, ben l'ironie, ça l'offre une forme de distance, proximité. Hein? C'est à la fois une manière de effectivement se distancer de l'objet, mais tout en gardant un lien de proximité avec. C'est très difficile d'être bon quand on est ironique, mais dans une narration de roman, quand c'est réussi, c'est fort. Puis effectivement, je pense que c'est le bon niveau de distance que j'entends dans cet extrait-là. D'ailleurs, moi, j'aimerais quand même souligner le rythme du texte qui est incroyable, qui est accrocheur, avec l'espèce d'élan en milieu d'extrait là, sur la tristesse, donc comment qu'elle s'apitoyait sur sa tristesse. Et c'est le thème qui m'a le plus parlé aussi, cette idée de voir, puis là je te cite, là, la tristesse comme un noble sentiment, et surtout la façon dont ton texte commence à renverser avec la phrase « Longtemps, Chloé a rêvé d'être l'une de ces créatures mystérieuses et tristes. Aujourd'hui, elle a d'autres chats à fouetter. » Déjà, il y a eu des faits de rip dans « créatures noble, mystérieuse et triste, et puis d'autres chats à fouetter. Ça casse vraiment ce passage-là. Puis ça vient branler cette pensée que les sentiments intenses, douloureux, c'est des ancrages solides dans la réalité. Du moins, c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis ça me faisait me demander d'où nous vient cette impression que souffrir ou être triste, c'est un sentiment qui est vrai. Ou pour reprendre tes mots, pourquoi est-ce qu'on tient à cracher du sel sur notre ulcère? Il y a ça aussi dans ton texte qui est intéressant, je trouve.
Mais je pense que tous les sentiments sont vrais. C'est juste qu'il y en a qui doivent, pour la survie de notre humanité, qui doivent primer sur les autres. Fait que je pense que la tristesse, la dépression, tout ça, c'est des sentiments qui sont vrais, qui existent. Mais je pense que l'espoir et la joie doivent gagner la partie. Fait qu'il faut leur donner plus d'importance puis continuer de se battre. Ça rappelle aussi l'extrait là, de Véronique Côté au début. L'idée de c'est tentant de baisser les bras, c'est tentant de juste se morfondre dans sa solitude. C'est une tentation qui est vraiment grande, mais il faut quand même se sortir la tête du marasme puis continuer de voir de la lumière, de vouloir puis en créer. Pas juste en voir, mais en créer.
Oui, oui, effectivement, je trouve ça intéressant le lien que tu fais avec la vie habitable, parce que la vie habitable, on a passé un extrait, puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est un essai sur la poésie du monde, où il y a des rencontres avec des personnes comme Catherine Dorion, Serge Bouchard, qui viennent parler de leur vision de la poésie, puis comment qu'elle est partout, puis que c'est un travail de la faire ressortir, mais que c'est un travail important qui doit être constant. Parce que effectivement, on peut vite s'attacher au côté plus sombre des choses. Puis c'est de là mon questionnement de pourquoi c'est plus facile quand c'est sombre, ou qu'est-ce qui nous apparaît plus simple dans le fait d'être triste?
Moi, je pense que c'est peut-être lié à notre bagage culturel aussi, où bon, on a tous étudié en littérature, les trois ici autour de la table, je sais pas vous, mais le nombre d'œuvres comiques que j'ai lues par rapport aux œuvres tragiques est vraiment moindre. Là. Mm-hmm. Il y a vraiment un préjugé favorable pour la tragédie. Et puis, je veux pas prôner de lire uniquement des œuvres qui finissent bien, là, pas du tout, mais je pense que je veux revenir à cette idée-là que la critique contient le positif et le négatif. Moi, je sens l'espoir dans cet extrait-là, je sens une espèce de désir de beauté en filigrane. Pour moi, la voix du rire qui résonne derrière, c'est ça. Et en même temps, t'es très sévère par rapport au réel. Et les deux cohabitent, dans le sens que ce n'est pas non plus... le choix n'est pas entre s'apitoyer et tout voir en rose. Il y a beaucoup entre les deux. Puis je pense que c'est ce que je recherche personnellement dans le littéraire, dans mes lectures et dans mon écriture.
Oui, puis c'est vrai qu'on a quand même une longue tradition au Québec. Puis je pense pas... je dis pas ça en opposition à d'autres cultures littéraires, parce que je parle du point de vue que je connais. Je suis québécois, là, et j'ai lu beaucoup d'œuvres québécoises qu'on reste quand même dans le sombre. La lumière est dure à trouver, des récits de... Je sais que Sarah t'a écrit aussi sur le voyage, de partir ailleurs, tout ça. C'est un thème qui est moins récurrent que dans d'autres traditions littéraires, comme la littérature américaine. Et quand j'étais adolescent, aujourd'hui, j'ai retravaillé cette image-là que je me faisais de la littérature québécoise, mais jeune, dans ma tête, un roman québécois ou un film québécois, c'était quelque chose qui était lourd, qui était sombre, qui était grave. Alors, d'insérer de la lumière, comme j'en parlais pour Arruda Tiroy en début d'émission, ou comme on en parle dans ton texte, je trouve que c'est quand même important, puis c'est le fun quand ça l'apparaît dans la littérature d'ici. Parce que, ben, la lumière, je trouve, dans ton texte, il y a elle apparaît entre autres avec le fleuve, hein, comme point d'évasion. Il y a la fuite quand même comme thème dans cet extrait de que tu nous as lu. Et il y a le fleuve qui devient un symbole vraiment intéressant, comme un point de fuite qu'on trouve à l'intérieur même du réel, comme une manière de s'en aller de la réalité trop lourde, mais avec un objet qui est là réellement à côté de nous, concrètement. Et puis je me demandais si vous aviez, comme ta narratrice, ce genre de point de fuite de la réalité, si c'est le fleuve, peut-être aussi pour toi, Sarah, je sais pas.
Ah, ben la nature, le fleuve, mais tout ce qui est la forêt, les montagnes, la nature, c'est un magnifique point de fuite, là. Mais l'art aussi, l'art en général. Puis souvent, on dirait que la fuite, c'est quelque chose, encore une fois, qui est perçu de manière plus négative, comme la critique de tantôt. La fuite, mais pour moi, c'est absolument essentiel, la fuite. Il faut échapper à cette réalité insatisfaisante d'une manière ou d'une autre. Puis la nature et l'art, c'est absolument des manières de s'évader, pour moi.
Mais moi, j'entends aussi fuite au sens de point de fuite. C'est aussi le fleuve, la nature, c'est ce qui nous permet de regarder plus loin. Puis quand on regarde plus loin, après, on a une meilleure perspective sur ce qui nous paraissait non dramatique dans le proche. Donc, je pense que c'est une autre façon aussi de critiquer. Puis ça rejoint l'extrait que tu nous as fait entendre de La vie habitable, là, qui lie poésie et nature. Je dis, c'est un cliché, mais pour des bonnes raisons, là aussi. Poésie et nature, je veux dire, c'est parce que la nature, elle nous permet de revoir avec poésie aussi ce qui avait été désenchanté. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fleuve dans le texte de Sarah que je n'avais pas vu à une première lecture. Puis ça arrive juste après le moment où, justement, ta narratrice lit énormément par plaisir. Tu sais, elle retrouve une espèce de connexion primaire avec le littéraire. Fait que je trouve que les deux, ça lit vraiment bien à ce moment-là de ton texte.
Mm-hmm. Oui, oui, parce que il y a un contact avec quelque chose de plus grand que nous qui est tant dans la littérature que dans la nature. En fait, c'est une fuite de son petit soi-même pour aller à l'extérieur. C'est quand on va dans la nature, on va dehors souvent, on va en forêt, on sort de cette intériorité parfois un peu encarcanante, étouffante, pour trouver d'autres choses. Puis ben ça... Vous êtes un peu en train d'y répondre, mais c'est un autre questionnement que j'avais. Si la littérature, c'est une manière de fuir parfois le réel, je ne sais pas comment vous situez par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous ouvrez un livre, c'est nécessairement une manière de vous couper de la réalité, ou si c'est plus complexe que ça?
Couper, c'est peut-être un peu fort, mais transformer le réel, l'éclairer sous un nouvel angle, mais peut-être pas coupé, parce que là ce serait, ben c'est pas la littérature fantastique, on pourrait percevoir, ouais, ça pourrait être une coupure assez nette avec le réel. Effectivement, certains styles littéraires sont plus, la coupure est plus franche, mais moi ce qui m'attire, c'est une littérature plus réaliste, plus proche du réel. Fait que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un pied dans le réel, puis un pied ailleurs, dans la transformation, dans le un peu l'utopie, là, de quelque chose d'autre.
Ouais.
Ouais, moi aussi, je vois pas ça comme une coupure nette, au sens où quand on lit, on est encore dans le réel, là, de la même façon que quand on parle ou quand on regarde la télé, on est toujours dans le réel. Puis en parlant, on peut créer, en regardant quelque chose sur un écran, on peut être en train de générer des pensées. Même chose quand on lit, tu sais, le reproche qu'on fait à des gens qui lisent tout le temps, qui seraient déconnectés du réel, moi, je le comprends pas, là. Je pense que ça nous permet de se reconnecter de plein d'autres façons en y repensant. Donc, ouais, pour élargir ou transformer nos horizons, oui, mais je le vois pas comme un échappement, là.
Ouais, ben personnellement, j'ai toujours perçu ça comme une sorte de mouvement cyclique, mm-hmm. où l'objet livre, la littérature, se place pas nécessairement directement dans le réel, mais d'un point de vue, dans une certaine distance. Tantôt, je parlais d'ironie, puis je trouve qu'il y a quelque chose de proche, puis c'est pour ça que je trouve que la narration de romans, entre autres, là, mais dans la littérature de manière générale, l'ironie a vraiment sa place, parce que c'est cette manière de ne pas s'inscrire directement, mais de permettre un aller-retour, donc de sortir de la réalité pour mieux y revenir. J'ai souvent cette impression quand je lis, et ça se fait autant avec la littérature fantastique, comme tu le nommais, qu'avec la littérature très réaliste, là, qu'avec Émile Zola, ou je sais pas, parce que Zola est lui qu'on cite constamment quand on parle de réalisme. Mais je pense que le côté coupé du réel, que je dis qui est peut-être une expression un peu forte, effectivement, est plus apparent quand on est dans des littératures qu'on dit souvent de l'imaginaire, le fantastique, science-fiction, mais qui demeure que n'importe quel roman n'est pas un objet du réel littéralement au sens où il le représente. Je sais pas si vous me suivez là-dedans ou si vous êtes d'accord, là. On peut être contre ce que je dis en ce moment.
Non, je te crois. Puis tu sais, on pourrait divaguer longtemps là-dessus, là. Vraiment, t'sais, qu'est-ce que le réel? Est-ce que ce n'est pas tout que perception? Est-ce qu'un roman est moins vrai que ce qui se passe dans ma tête? Tu sais, c'est une question super intéressante. Puis je pense que chaque personne a sa propre réponse. Puis on pourra jamais savoir comment les autres vivent leur réalité. Fait que si tout est, en tout cas, c'est le fun d'avoir des repères, là, quelque chose de stable. Fait que disons que tout n'est pas relatif puis qu'il y a une certaine réalité qui existe. Puis à ce moment-là, c'est vrai que les romans, ce serait en parallèle de cette réalité-là, une réalité parallèle à la réalité dans laquelle on vit. Fait que c'est pas tout à fait la réalité. Non, c'est autre chose.
Mais en même temps, ce qui est merveilleux, c'est en parallèle à laquelle on vit, nous, comme je, et donc, c'est un peu la seule façon d'accéder à celle des autres si on les connaît pas directement. Je veux dire, moi, ça me permet aussi de réentrer dans des réels auxquels je n'ai pas d'autre accès ou pas d'accès aussi... aussi prenant ou qui me permettent d'entrer aussi profondément. Donc, je sais pas, il y a un mouvement qui se fait dans ce sens-là aussi.
Oui, oui, ben c'est plus facile s'identifier à un personnage de roman souvent qu'à une personne croisée dans la rue. Parfois, malheureusement, on devrait plus avoir d'empathie pour des êtres réels que ces personnages qui souvent n'existent pas. Mais oui, parce qu'on a cet accès à la voix, à l'intériorité qui nous permet de mieux comprendre les personnages. Puis, je pense que j'utilisais aussi le terme « coupé du réel » parce que c'est quelque chose qui m'est apparu dans l'extrait que tu nous as lu de ton personnage qui y a la mention qu'elle ne veut plus recevoir d'appel, elle ne veut pas savoir ce qui se passe à ce moment-là. Et j'ai eu cette impression, je ne sais pas si tu le dirais comme ça, mais qu'il y a une tentative quand même de ton personnage à ce moment-là de se couper de la réalité ou d'une certaine réalité.
Oui, absolument. C'est vrai, je l'avais même pas, j'y avais pas pensé, mais effectivement, ça commence avec une coupure avec la réalité, puis il y a une échappatoire par la littérature, puis ensuite, bon, après ça, il y a le retour sur un regard sur son passé. Mais effectivement, ça commence avec une espèce de déni du réel.
Ouais, puis je me questionnais sur les bénéfices de ce genre de déni du réel, parce qu'on le ressent tous à un point ou un autre dans notre vie, hein, cette impression-là de « là, j'irais chez nous, je ferais juste lire des livres, je couperais mon Facebook, je couperais mon téléphone, et moi, je boirais du thé, puis je lirais des livres à longueur de journée. » On le ressent, on le fait pas si souvent, certains, je crois, passent à l'acte. Est-ce que c'est un sentiment qui est bon à cultiver? Est-ce que c'est un sentiment qui est même bon à appliquer, dans le sens de passer à l'acte parfois, de se couper quelques instants, quelques jours de la réalité? Je mets des gros guillemets.
Je trouve que c'est sain de le faire. Moi, je trouve qu'il faut le faire. Sinon, c'est la réalité est insatisfaisante. Elle est imparfaite. Tout est imparfait. Moi, je trouve que c'est absolument sain de parfois fuir la réalité, c'est bon pour la santé en général.
Je suis tout à fait d'accord. Autant qu'une marche devant le fleuve, plonger dans autre chose que nous et le réel, ça fait vraiment du bien pour ensuite être capable d'agir au sein de ce réel-là. Et puis d'avoir des aspirations au-delà de notre quotidien aussi, au-delà des insatisfactions. Justement, de pouvoir bonifier, là, je ne dis pas ça de façon très utilitaire, là, qu'on va aller chercher un outil précis en littérature, mais qu'on va aller chercher des visions du monde qui vont nous animer, des nouveaux sentiments qui vont nous amener vers l'avant.
Mmh. Oui, parce que l'apitoiement qui était décrit, là, cette vision de « je dois être triste » que ton personnage avait, ça peut effectivement nous enfermer en nous-mêmes, nous faire oublier qu'il y a d'autres choses que notre petite personne. Je pense qu'effectivement, tu l'as très bien nommé, Jeanne, la littérature, ça nous offre ces outils-là pour sortir de nous. Écoutez, c'est une très belle discussion que nous offre ce petit extrait de « Plus grande que les maisons ». Ça donne le goût de lire le livre en entier, qui est disponible d'ailleurs en librairie. Donc, on vous invite là, à aller acheter l'œuvre. Vous allez avoir une vue d'ensemble beaucoup plus intéressante, je pense, en lisant le livre au complet. Et nous, on va passer à une pause avant d'entendre la lecture de Jeanne. On est toujours là au cabaret du Crachoir. À tout à l'heure.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Faire ce qui me plaît, un point c'est tout. Tout le monde devrait être comme je. 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Vous me connaissez sur les ondes de Chiz pour mon esprit d'analyse. Un commentateur d'actualité politique.
Ça reste que la possibilité qu'il soit minoritaire sous gouvernement reste très, très probable, en fait.
Mais là, Félix Bouffard, le journaliste, est pas mal écœuré. C'est pourquoi je reviens cette année avec une autre formule. Une formule qui met en valeur des chroniqueurs de tout horizon.
Hey, c'est quand tu commences à parler de moi?
Et je serai accompagné cette fois de Virginie, que j'ai été capable de sortir de son lab. C'est les scientifiques, faut pas trop leur en demander.
Regarde Science Vacances qui parle, toi. En tout cas, les lundis matins de 9 à 10, il n'y en aura pas de facile.
Il n'y en aura pas de facile à Chiz 94.3.
Le cabaret du crachoir. Chiz 94.3.
Comme plein de mes contemporains, je pratique le semblant de rien. Et je donne mon accord tacite au triomphe d'un monde qui s'effrite. Climat fucked up, écocide, c'est donc ben plate d'être lucide. Je préfère mettre la switch off en attendant la catastrophe. Mais que le jour s'éveille sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Wow. Se lèvera le soleil sur les maisons toutes pareilles. Wow, 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 wow.
Et oui, il n'y a pas que la littérature pour critiquer le réel. Il y a également la chanson, parmi tant d'autres moyens. Et c'était les Cowboys fringants qui critiquent un monde de maisons toutes pareilles. Et je ne peux qu'être d'accord avec eux. Parfois, c'est un peu triste, hein, malheureusement, notre rapport à la beauté. D'ailleurs, on parle de laisser la vie habitable. Il y a également la perte de l'héritage, comme essai intéressant sur la beauté au Québec, enfin. Les maisons toutes pareilles. Je ne sais pas si vous aviez... Connaissez-vous cette chanson-là?
Ou... Non,
celle-là. Ouais, c'est moins connu. C'est sur le dernier album des Cowboys fringants, les Antipodes, celui que l'Amérique pleure, qu'on a tant entendu. Fait du bien d'en entendre d'autres.
On peut dire qu'ils sont fidèles à eux-mêmes. Hein?
Oui,
ils
oui.
Ils gardent la même, le cap sur la même horizon depuis...
Oui.
Toujours.
Les Cowboys fringants, c'est comme un party de famille. On sait ça va ressembler à quoi, mais ça fait toujours du bien. C'est le fun à retrouver d'un album à l'autre. Alors, avant la pause au cabaret du crachoir, nous entendions Sarah qui nous lisait un extrait de Plus grande que les maisons. On a beaucoup apprécié sa lecture. Ça l'a éveillé plein de belles discussions sur notre thématique du jour, c'est-à-dire écrire pour critiquer le réel. Mais pour être un vrai cabaret littéraire, ça nous prend plus d'une lecture. Il faut qu'il y ait plusieurs poètes et plusieurs littérateurs, pour utiliser un vieux mot que plus personne n'utilise, qui vient de se présenter au micro. Donc, ce sera Jeanne qui va nous lire « Mettre les voiles ». Mais avant la lecture du poème en tant que tel, elle va nous parler de sa démarche, parce que c'est original, vous allez voir. Alors, on écoute la lecture de la démarche de Jeanne et de son poème « Mettre les voiles ».
Ma démarche est celle d'une punk qui bouge large ses épaules pour prendre tout le trottoir et qui penche le torse vers toi en montant le menton pour t'aligner les yeux. J'ai voulu écrire bien fâché contre mes ennemis, mais je n'arrivais qu'à gesticuler avec parfois un mot ou deux, par erreur. Les mots sont restés là pour sous-titrer les mouvements. Il faut dire aussi que ça pourrait être pratique, mettons, dans les bars, juste assez pour attirer l'attention. Il s'agira de poésie. Sinon, qui écouterait ces gestes? À un moment, je ne peux pas non plus vous aligner les yeux un à un. Et puis, dans la partition, tu pourrais suivre les mots avec ton index. Mettons que tu lirais pas le mime. J'ai fait ce que j'ai pu. Dessiner mes gestes, clarifier leur direction, ordonner les mouvements, laisser des traces comme la compositrice sur la portée pour que tu sois musicienne. Mais quand je les dessine, les figures ne veulent pas de mon réalisme. Leurs membres s'écrapoutissent et refusent de faire partition. Ça serait mieux en vidéo, peut-être des mèmes, ces mimes qu'on dit. Ça serait mieux si ton ami qui dessine te dessinait ça. Moi aussi, je dessine. D'ailleurs, on m'avait dit que ça me servirait toutes ces mathématiques, ce traçage de solides, de courbes quadrillées. De toute façon, ça serait à lire sur un lutrin, genre à faire à la maison lorsqu'en quarantaine. On sait jamais, on pourrait toujours avoir besoin de se dégourdir. Comme moi, la fois où j'ai écrit le premier poème sans mots, seulement ceux qui s'y sont accidentés entre deux moves. Tout ça, c'était un accident. La trace des mouvements de mes genoux, de mes coudes, de tous mes angles sur les murs d'un cubicule trop serré. Maintenant, un seul mot suffit souvent. Sûrement que c'est ça, le métier qui rentre. Alors, comme le dit mon texte d'introduction, mes poèmes sont un peu comme des partitions avec texte et mouvement illustrés par des personnages allumettes. Dans le contexte d'une lecture à la radio, j'ai essayé de penser à un moyen de communiquer les gestes. Donc, dans ma lecture du poème suivant qui s'intitule « Mettre les voiles », il y aura deux voix, les deux étant ma propre voix, mais dans un cas, la voix du poème, et dans un deuxième cas, la voix des gestes. Donc, pratiquement des didascalies, comme au théâtre, qui visent à décrire les mouvements que je fais normalement lorsque je performe le poème et qu'on a un visuel. Donc, pour bien entendre ces deux voix, je vais d'abord vous lire uniquement la voix du poème pour que le poème puisse être entendu, les mots puissent être entendus. Et ensuite, je vais alterner entre ces vers et les didascalies. Donc, mettre les voiles. On vous a touché d'une douceur sans nom. On vous a enduit de la crème des gestes. Un voile d'une légèreté à vous scier des jambes. Vous n'en aurez plus besoin. On vous a touché, la pulpe des doigts de la main droite se dépose sur la joue droite. D'une douceur sans nom, la main gauche imite la droite, se dépose sur le duvet de la joue gauche. On vous a enduit, la joue droite se repose sur le dos de la main. Les doigts se préparent pour la rotation. De la crème, la paume tourne vers le ciel, frôlant la joue. De la crème, et tourne à nouveau vers le ciel. Des gestes. Et si elle lance, on ouvre les deux bras grands, fierté dans la posture. Un voile d'une légèreté, la paume droite parcourt l'intérieur du bras gauche avec délicatesse. À vous scier, les bras ouverts, genou droit s'élance. Les jambes, bras se refermant, on atterrit sur le pied droit. Vous, le genou droit se pose au sol, n'en aurez, la fesse droite le rejoint. Plus, la jambe gauche se croise sous la droite et on ouvre les bras. Besoin, les mains sous le menton, on laisse la tête en repos.
Mettre les voiles dans une adaptation radiophonique de ce poème gestuel, parce que rien nous arrête au cabaret du crachoir, on peut tout faire. C'était Jeanne Mathieu Lessard qui nous lisait son texte, et Sarah qui l'a bien écouté. Qu'est-ce que t'en aurais à dire?
Mais c'est tellement vivant ce que tu proposes. Même juste la lecture de ta démarche, là, c'était déjà très vivant en soi. J'avais comme plein d'images qui jaillissaient dans mon esprit, puis ensuite malheureusement pour les auditeurs qui peuvent pas te voir bouger puis voir les gestes qui accompagnent les mots, mais il y a quelque chose d'extrêmement organique là, puis vivant, là, je peux pas trop le dire là, dans ce que tu fais, qui me plaît beaucoup. J'adore comment tu vas canaliser la colère dans les gestes, dans quelque chose de concret, quelque chose de créatif. Puis ça m'amène à une question. C'est quoi? Je me demande comment t'en es venue à ça. Est-ce que t'as un bagage en danse? C'est quoi ton rapport avec le corps puis l'espace que le corps occupe? Comment qu'il bouge? Je veux dire, il y a quelque chose de... Ça t'est venu comment? Je suis curieuse.
Mais merci pour tes commentaires puis ta question. J'ai un petit bagage en danse
j'ai fait quelques cours de danse, de ballet, de danse contemporaine, mais surtout du tai chi. Je pense que je suis plus inspirée par le tai chi que la danse, plus qu'autre chose. Mais en fait, c'est vraiment venu la toute première fois par colère. J'étais vraiment en colère contre certains faits, certaines personnes. Et puis, ce que je dis dans ma démarche, là, il y a un aspect biographique au sens où j'étais réellement dans un cubicule de travail en train d'écrire mon doctorat. Et les mots ne me suffisaient plus. Et moi, comme littéraire, c'est assez troublant quand j'arrivais au moment où des mots dans ma vie ne me suffisaient plus. Et mon corps a parlé. Je veux dire, j'ai juste exprimé des gestes que j'ai couchés sur papier, que j'ai pratiqués. Et puis ensuite, des mots sont venus avec ces gestes-là. Donc, c'est plus le cas nécessairement tout le temps maintenant. Parfois, j'écris d'abord des mots et ensuite, je mets mon poème en geste, comme on le mettrait en musique. Mais dans certains cas, j'ai d'abord un mouvement, mon corps parle. Je l'écoute et ensuite, j'explique par des mots, vraiment comme si je sous-titrais un mouvement. Et ça a fait le plus grand bien cette fois-là. Je pense que cette colère-là ne paraît même pas nécessairement dans le produit fini, mais c'est vraiment comme on se disait tantôt, j'avais besoin de quelque chose d'autre que le réel à ce moment-là. Et puis c'est le mouvement qui me l'a apporté.
Est-ce que ce que nous offre le réel, là, dans le sens où les gens vont dire que la poésie, c'est ça, c'est la réalité de la poésie, c'est des mots, alors que...
Pas nécessairement.
Ben oui, tu prouves bien d'ailleurs quand tu l'interprètes, on te voyait nous en studio où t'allais naturellement faire les gestes, on voyait que c'est intriqué un dans l'autre, le geste et le mot, les gestes et les mots ne peuvent pas devenir indépendants en faisant ta poésie. Et d'ailleurs, ça pointe quand même l'insuffisance du langage parlé pour exprimer nos sentiments de frustration et de révolte. Tu l'expliquais à l'instant et on l'entend très bien dans la phrase explicative de ta démarche. Là, j'ai voulu écrire bien fâché contre mes ennemis, mais je n'arrivais qu'à gesticuler avec parfois un mot ou deux par erreur. C'est exactement ce que tu viens de nous expliquer. Moi, je suis particulièrement content que tu viennes interpréter ton poème à la radio parce que ça te fait ressortir l'aspect contraignant des mots qui est critiqué implicitement dans ta démarche. Est-ce que tu crois que c'est par manque, on manque quelque chose avec les mots, qu'ils sont trop ou pas assez réels? Si tu allais aller plus loin dans la réflexion du pourquoi les gestes sont arrivés comme ça?
Bien, dans mon cas, moi, je vois vraiment la poésie comme un art vivant. Je suis vraiment arrivée à un intérêt pour la poésie en passant par mon intérêt pour la chanson. J'ai écrit mon mémoire sur l'écriture de chansons. Et puis, dans ma tête, un poème, quand je lis uniquement, doit être lu tout haut. Il manque quelque chose s'il n'y a pas une oralité. Puis l'oralité, ce n'est pas juste une voix désincarnée. Dès qu'il y a oralité, il y a corps. T'sais. Dès qu'il y a oralité, il y a mouvement, même les plus petits mouvements. Donc, oui, souvent, dans le cas de la poésie, là, la narration longue, c'est vraiment autre chose. Pour moi, mais dans le cas de la poésie, souvent, il me semble manquer quelque chose aux mots. Puis je pense que souvent, dans nos actes de communication aussi, on se concentre sur les mots. Mais les mots, c'est qu'une toute petite partie de la communication. Je peux vous dire la même phrase trois fois avec trois tons différents. Puis bien évidemment, tout de suite, ça va évoquer trois choses différentes pour vous. Et puis souvent, on met l'accent là-dessus, pas juste en littérature, là, culturellement, je pense, au sens large. On met beaucoup l'accent là-dessus, puis on sent pas tout ce qu'il y a d'autre qui passe dans nos corps, puis on cultive pas ces autres gestes-là qu'il y a autour des mots, je trouve.
C'est drôle ce que tu dis parce que j'enseigne le théâtre au primaire et au secondaire également. Et puis, je travaille souvent dans mes premières pratiques, donc celles que je donne en ce moment parce qu'on est en début de session. J'enseigne les émotions d'abord et j'essaie d'apprendre à mes élèves de s'enlever de la tête qu'une émotion, c'est dire « bon, je suis en colère » et là, se demander comment ils vont représenter la colère avec tel visage, en prenant telle voix, mais d'essayer d'aller chercher la colère en eux à travers une position qu'ils peuvent prendre. Ça part vraiment, le stéréotype, c'est de dire « ça part du ventre », mais c'est pas pour rien qu'on dit ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut partir de notre corps. Mais effectivement, je sens que quand je montre ça à des enfants de 8, 9, puis même à mes plus vieux qui ont 14, 15 ans, ils ont de la misère à comprendre. On n'a pas cultivé cette habitude-là chez eux d'aller voir qu'est-ce qui se passait au niveau corporel.
Tellement intéressant. Je veux faire un cours comme ça. Je vais en suivre un, moi aussi.
Tu sais, là, on avec raison, là, on s'attarde surtout sur la forme. mais il y a un fond à ton poème, puis un fond assez dense, puis tu t'en sortiras pas facilement. On va aller creuser ça, parce qu'il y a, t'sais, il y a vraiment des phrases fortes. En fait, elles le sont toutes, parce que c'est un poème qui est assez court, mais assez chargé. Il y a des espèces de... Je me souviens plus si c'est un oxymore ou une antithèse, là, mes figures de style sont loin, mais quand tu dis un voile d'une légèreté à vous scier les jambes, mm-hmm. il y a toute cette idée-là, une réflexion sur la femme, puis mm-hmm. ce qui est inculqué dès la jeunesse, là, c'est comment qu'on va imposer une espèce de dictature normative de comment qu'on doit bouger, comment qu'on doit être, comment qu'on doit se sentir. Puis le fond, la forme est intéressante, mais le fond, il est extrêmement... Il y a du contenu là, aussi dans ton poème.
Bien, merci. Mais si je peux continuer sur la légèreté, je me rappelle pas à quel moment j'ai écrit ce poème-là, mais j'ai suivi des cours de ballet aux adultes. Et puis, je me rappelle d'une dame qui demandait à la prof, « Mais toi, quand tu danses, tu as toujours l'air légère. Comment moi, je peux avoir l'air légère? Comment nous, tu sais, comme femmes adultes, on peut évoquer cette légèreté-là? » Puis, je me suis rappelée dans ma tête que je me suis dit, « Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai pas envie d'avoir l'air légère. » J'ai envie d'avoir l'air lourde, puis groundée, puis peut-être parce que je suis plus, je sais pas, j'ai toujours été petite aussi. Moi, mon rêve, ça a plutôt été d'être grande puis forte, je sais pas. Mais il y a une critique sur, comme tu l'as bien cerné, de façon générale, cette association entre la légèreté puis la féminité, qui est pas nouvelle, puis la critique est pas nouvelle non plus, mais... Dans mon cas, il y a des gestes qui sont constamment reconduits, notamment en publicité ou en art, dans les représentations des femmes. Une relation à leur peau qui est très, très délicate. C'est comme si on pouvait juste frôler une peau de femme ou frôler notre propre peau. T'sais, quand on s'enduit de crème, il y a cette image-là là, dans mon geste, là, un peu banal, là, de tapoter sa peau pour mettre de la crème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai envie, moi, d'images de femmes pas légères. Puis ça implique des femmes qui peuvent être en colère aussi puis qui peuvent faire des gestes grandiloquents sans se faire dire qu'elles exagèrent. Tu sais, cette notion-là de l'exagération, là, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, peut-être, parce que moi-même, j'ai un langage qu'on peut qualifier d'hyperbolique souvent, là, quand je parle ou j'enseigne. J'ai envie que ce soit vraiment... bien reçu aussi comme une voie valable pour s'exprimer, d'exagérer, pour dépeindre un autre réel. C'est pas parce qu'on est déconnecté du réel qu'on veut exagérer, c'est aussi parce que peut-être qu'on veut que les choses soient plus grosses, plus grandes, plus belles, plus fortes, plus solides, plus groundées, pas légères. T'sais, c'est un désir positif pour moi.
On est en train de... J'aime ça aujourd'hui. On prend des choses qui sont communément considérées comme négatives. On est comme non, non, non. Il y a du bon là-dedans. C'est vrai que l'exagération pour donner un peu de... Un peu de piquant, là, un peu d'enthousiasme. Là. Let's go, on se réveille.
Mm. Oui, puis en se faisant, tu nous sensibilises aussi à des éléments qui sont de l'ordre de l'indicible, puis que peut-être qu'on voit moins parce qu'on peut pas les dire. Ce que tu nommes en publicité, là, t'es arrivé à le... d'écrire quand même par les mots, mais c'est dur d'en arriver, par exemple, dans un poème, à parler de ça et que ça conserve la forme poétique, alors qu'en ajoutant les gestes, on finit par voir ces choses-là. Puis je me demande qu'est-ce qui fait qu'on les ignore souvent, ces trucs de la vie qu'on a de la misère à nommer, mais qui sont quand même là, constamment omniprésents.
Mais moi, je pense que paradoxalement, on porte pas beaucoup attention au corps socialement. Tu sais, on parle de la surreprésentation des corps, notamment féminins, puis c'est vrai, mais est-ce qu'on leur porte attention? Je veux dire, est-ce que je sais pas, est-ce qu'on se demande ce que nos gestes font au-delà des vêtements qu'on met, là, auxquels on porte beaucoup d'attention, je trouve, là? C'est ça, je sais pas si on porte attention aux gestes. Peut-être que je devrais dire gestes plus que corps.
On voit les corps comme des corps. Au lieu de voir des corps comme animés par des esprits, le corps comme un moyen de communication, mm-hmm. comme quelque chose qui est animé, là, avec une âme à l'intérieur, on le voit comme un corps, le corps comme le corps. Mm-hmm. Mais il y a une interrelation là, entre ce qui se passe à l'intérieur puis la surface. Puis, ouais, effectivement, faut pas voir... Moi, j'ai l'impression, puis encore là, ça se discute, puis, mais moi, j'ai l'impression que c'est un tout, le corps et l'esprit. Là, puis il faut... Si tu vois le corps comme un corps, tu manques une grosse partie de l'information.
Oui, puis le corps, c'est vraiment... C'est ça, c'est en mouvement, c'est pas statique, comme tu dis. Puis je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'on y porte pas attention. Ou en tout cas, je veux revenir sur le fait que tu as dit que j'ai dû adapter là, pour la radio. Oui. Ça a été vraiment un exercice super intéressant pour moi parce que, justement, je suis allée vers les mots, vers les gestes, quand je trouvais que les mots pouvaient... pas suffisamment exprimé ou pas aussi clairement qu'un geste. Et puis là, j'ai dû revenir vers les mots pour l'exercice d'aujourd'hui, puis ça m'a forcé à comprendre ce que j'avais fait ou essayé. Je pense pas que j'ai réussi à vraiment décrire des gestes, tu sais, mais donc j'ai aimé cet aller-retour que j'ai dû faire de multiples fois, là.
Ben, c'est drôle, je m'étais pris une note par rapport à ça parce que je trouvais intéressant que déjà, ben, t'es parti d'une première version de ta poésie qui est le mot, ben, les mots accompagnés des gestes, et t'as dû l'adapter aussi pour publier. Mm-hmm. Et je sais aussi que tu travailles sur un recueil éventuellement pour mais bon, t'en as déjà publié quelques versions aussi, ben, dont une au crachoir de Flaubert. Et là, t'as dû faire une première adaptation qui est de passer par le dessin.
Oui.
Et puis après ça, à la radio, ben, toi, t'as forcé à aller encore ailleurs, là, en trouvant un moyen que ça ne soit que sonore. Et ben, tu y es parvenu. Puis je me demandais effectivement si, à travers ces adaptations-là, t'es arrivé à mieux comprendre ta démarche, qu'est-ce que ça l'avait fait ressortir de...
Oui, ben en fait, c'est que le mot reste assez important, en fait, parce que ce que je dis dans mon petit texte de présentation un peu ludique, mais c'est un peu vrai. C'est quand je présente ça aux gens, plusieurs me conseillent de me filmer, que ça pourrait être des vidéos poèmes, des danses poèmes, que c'est vraiment quelque chose, justement, d'ancrer dans le visuel. Puis pour moi, c'est pas visuel, dans le sens que si c'est visuel, ça se veut éphémère, ça se veut des performances, mais il peut rester une trace. Puis je vois vraiment le poème papier comme une trace d'une réalité qu'il y a eu à un autre moment, ta performance, mais qui pourra jamais le représenter au complet. Puis en fait, quand j'en fais circuler, bon, j'ai une amie, entre autres, à qui j'ai fait circuler un poème dernièrement, sans lui présenter, elle m'a jamais vu le performer, elle habite ailleurs, et puis elle l'a lu chez elle, puis elle l'a fait. Donc, elle a essayé de suivre la partition pour le faire dans son propre corps. Et puis donc, après, on va se parler de ce qu'elle a senti dans son corps, et puis ça va devenir deux poèmes, tu sais. Et aussi, la question de la notation, bien, j'essaie encore de développer comment noter ça sur papier. Je n'ai pas de qualité de dessinatrice, mais tu sais, pas du tout. Donc, je fais des bonhommes allumettes que je commente pour essayer d'expliquer le geste. C'est limité, j'en suis consciente. Mais je pense
beaux,
que...
des bonhommes allumettes.
Bien, merci. Pour des bonhommes allumettes, je pense qu'ils sont...
C'est des allumettes.
Ouais, puis c'est le fait que tu parles en termes de partition, parce que tu le dis dans ton texte de présentation de démarche, là, et puis dans la partition, tu pourrais suivre les mots avec ton index. Admettons que tu ne lirais pas le mime. Je trouvais ça intéressant, il y a quelque chose d'un peu ludique dans la formulation, lire le mime. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui se lit? Est-ce que c'est une forme d'écriture, mais qui a ses propres codes, les gestes?
Oui, puis j'aimerais ça explorer davantage le mime. Là. Je suis une wannabe mime. Là. J'ai vraiment appris par moi-même. Mais oui, il y a vraiment des codes. Je parlais aussi des codes de mes dessins. Là. Si c'est difficile de lire les gestes, les mots peuvent aider à lire les gestes, dans le sens que je voulais aussi donner un peu la place principale aux gestes, même si c'est un truc écrit. Les mots sont là pour aider dans un sens. Mais là, je le vois des deux sens. Là. Maintenant, je vois vraiment une relation entre les deux. Mais en fait, je pense que ce que j'aime là-dedans, c'est que mes gestes puis les mots... iront jamais tout à fait dans la même direction. Puis en fait, je sentais ça dans ton texte aussi, c'est ce que je voulais dire quand je disais, tu sais, la narratrice a l'air en décalage avec le personnage. J'aime les textes, les démarches où il y a toujours deux voix. C'est pas possible qu'il y en ait juste une. Ici, c'est assez concrétisé, là, mais dans le littéraire, je trouve ça fascinant qu'avec juste, entre guillemets, des mots, on parvient à faire sentir deux, trois voix qui se contredisent. Et ça, pour moi, c'est de la critique. Ça, pour moi, c'est réussir en même temps à présenter deux choses puis à nous enrichir, tu sais, dès maintenant, avec une perspective double, tu sais.
Et c'est ce qui nous laisse souvent sans mots, dans le sens où l'indicible que je parlais de tes poèmes ou qui est évident dû à la forme gestuelle, mais on se retrouve dans cet indicible-là avec n'importe quelle œuvre. Si je veux parler d'un roman qui m'a fait vivre un moment d'illumination incroyable et que je veux résumer ce moment d'illumination, il y a un moment où je suis obligé de dire, ben regarde, prends-le, là, puis vis-le toi aussi de la manière que tu vas le vivre, mais je parviendrai pas. Là, on n'est jamais autant dans la littérature que quand on est dans l'œuvre. Tout ce qui se fait autour, c'est une pâle tentative de retrouver la littérature, je pense, du moins. Je sais pas si vous me supportez là-dedans ou si c'est un peu trop grandiloquent comme formulation.
Non, je suis d'accord. On dit souvent ça de la poésie. Là, on peut pas résumer un poème, tu sais. On peut pas résumer aucune œuvre, je pense. On peut résumer notre relation à l'œuvre, tu sais. Puis elle est individuelle, puis elle change avec le temps. Même quand je parle de ma relation à une œuvre que j'ai lue il y a 5 ans, c'est pas la même si je la relis. Là. Ça change, ça évolue toujours.
Mm. C'est deux choses complètement différentes. Ouais, lire et puis en parler, ouais, c'est vraiment... On fait pas appel là, au même ressort. Là.
Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir l'œuvre écrite un jour de ton recueil sur lequel tu travailles. Et j'y pensais parce que tu parlais de t'informer à propos de l'art qu'est le mime. Petite recommandation, parce que comme je dis souvent, on est au 2e épisode, mais je l'ai dit à l'autre épisode aussi, j'aime cette idée de cabaret, d'échange. On peut aussi se recommander comme ça des lectures, comme quand on va physiquement assister à des soirées de lecture. Eh bien, il y a un livre qui s'intitule Les chants du mime en compagnie d'Étienne Decroux de Gabriel Chiasson-Dulude, qui est un essai sur justement l'art qui est le mime. C'est assez fascinant. On vous recommande la lecture.
Mais t'as-tu déjà entendu parler de Charlie Chaplin?
Ça me dit quelque chose.
Il était pas pire là-dedans.
Oui.
Oui, ben si on parle un peu de Charlie Chaplin, à l'émission que j'animais auparavant, qui s'intitulait La planète des sages, dont on peut encore retrouver quelques épisodes sur Spotify, tout comme le cabaret du crachoir qui est sur Spotify, iTunes et le site de Shiz. Petit moment de publicité. Mais on avait parlé de Charlie Chaplin et entre autres de la fameuse scène de chanson dans les temps modernes où on entend sa voix pour la première fois et où il fait donc il se met à chanter, mais finalement c'est un charabia, donc son chant veut rien dire, mais dans la gestuelle et avec le charabia, il y a quand même quelque chose qui ressort de très puissant. Moi, je suis tombé en amour avec ce vidéo-là. Pendant un bout, je l'écoutais 2-3 fois par jour, juste l'extrait de la chanson, parce que, ben, effectivement, il maîtrisait tellement le corps. C'est, ce que tu nous dis aujourd'hui, Jeanne, je pense que ça nous invite à faire plus attention à notre corps et peut-être à apprendre son potentiel.
Mais, tant mieux.
Ben, merci beaucoup pour ça. Mais merci à vous deux. Là, on se dirige tranquillement vers la fin de l'émission. Ben d'abord, merci Sarah. On peut retrouver tous tes romans en librairie. Le prochain paraîtra le 1er mars 2023. On a bien hâte de lire ça. Merci encore.
Ben merci à toi de créer un endroit comme ça pour mettre la littérature de l'avant. C'est vraiment apprécié, je pense, au nom de toute la communauté. Là. Merci.
Ben, ça fait plaisir. C'est également le cabaret le crachoir de Flaubert qu'il faut remercier puisque l'émission est en partenariat avec eux. Merci également Jeanne. Comme je disais, tu travailles actuellement sur un recueil de poésie gestuelle qui ne risque pas de nous laisser indifférents. Oui, parce que ben c'est une démarche originale. On te souhaite le meilleur des succès avec ces expériences, disons-le comme ça.
Merci beaucoup, Patrick. Merci, Sarah. J'ai vraiment apprécié mon expérience aujourd'hui. Puis moi aussi, je veux te remercier et le crachoir et le cabaret de créer ce lieu et ce temps pour nous.
Ben oui.
Dernière chose, je sais plus ou moins rapport, mais tout le monde, aujourd'hui, je sais que vous le savez, mais on n'oublie pas, on va voter. Si on veut changer la réalité, on peut pas juste la critiquer, il faut agir. C'est une évidence, mais allez-y, soyez des bons citoyens et citoyennes.
Ben oui, effectivement, merci de ce petit moment. Je voulais en parler aussi, ça m'est complètement sorti de la tête. J'étais trop absorbé par nos discussions. Alors, la semaine prochaine, ce sera une pause pour le cabaret du crachoir, puisque c'est l'Action de grâce et on va fêter ça. Disons, je ne sais pas ce qu'on fête à l'Action de grâce, mais on va avoir un retour en force la semaine suivante avec Mélitza Charret et Jessica Dufour. Il sera question de l'écriture comme manière de cheminer. Et puis pour terminer cet épisode, soyons quétaines un peu. On va se laisser sur John Lennon, qui est un grand critique du réel et qui nous a permis d'imaginer un monde meilleur. Et oui, c'est Imagine de John Lennon. No hell below us.
c'était le cabaret du crachoir avec votre animateur Patrick Couture.
OK, attention. 1, 2, 3. Cheese!
Vous écoutez Cheese 94.3 FM à Québec.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94,3.
T'es stagiaire postdoctoral à l'Université Laval? Ta convention collective arrive bientôt à son échéance et doit être négociée avec ton employeur, l'Université Laval. Mobilise-toi et tiens-toi informé. Pose des questions, entre en contact avec ton syndicat pour plus d'informations par courriel step@step.ulaval.ca ou par téléphone au 418-656-5990. Oublie surtout pas de suivre notre page Facebook Step Université Laval ainsi que le site web www.infostep.org. Tous ensemble vers la négo.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.